Chapitre 8. La mort existe et la vie aussi. Serge Golovine ne pensait jamais à la mort, chose à ses yeux accessoire et étrangère. Il était robuste, doué de cette sérénité dans la joie de vivre qui fait que toutes les pensées mauvaises ou funestes à la vie disparaissent rapidement et laissent l'organisme indemne. De même que chez lui, les égratignures se cicatrisaient vite, de même tout ce qui blessait son âme était immédiatement anéanti. Il apportait dans tous ses actes, dans ses plaisirs et dans la préparation d'un crime, la même gravité heureuse et tranquille. Dans la vie, tout était gai, tout était important, digne d'être bien fait. Et il faisait tout bien. Il dirigeait admirablement les bateaux à voile, il tirait avec précision, il était fidèle en amitié comme en amour, et avait une confiance inébranlable en la parole d'honneur. Ses camarades assuraient en riant que si un espion avéré eût juré à Serge qu'il n'espionnait pas, Serge l'aurait cru et lui aurait serré la main. Un seul défaut, il croyait bien chanter alors qu'il chantait atrocement faux, même les hymnes révolutionnaires. Il se fâchait quand on riait de lui. « Oh, ou bien c'est vous qui êtes tous des ânes, ou bien c'est moi !» disait-il d'une voix grave et offensée. Et après un instant de réflexion, les camarades déclaraient d'un ton tout aussi sérieux ben, « C'est toi qui es un âne, on le devine à ta voix !» Et comme c'est parfois le cas pour les braves gens, on l'aimait peut-être plus pour ses travers que pour ses qualités. Il pensait si peu à la mort, il la craignait si peu, que le matin fatal, avant de quitter le logis de Tania Kovrialchuk, lui seul avait déjeuné avec appétit comme d'habitude. Il avait pris deux verres de thé mêlés de lait et mangeait tout un pain de deux sous. Puis, regardant avec tristesse le pain intact de Werner, « Mais pourquoi ne manges-tu pas ?» lui dit-il. « Mange, il faut prendre des forces. »« Non, j'ai pas faim. »« Eh bien, c'est moi qui mangerai ton pain, veux-tu ?»« Oh, mais quel appétit tu as, Serge !» En guise de réponse, Serge se mit à chanter, la bouche pleine. D'une voix sourde et fausse, « Un vent hostile a soufflé sur nos têtes !» Après l'arrestation, Serge eut un moment de tristesse. Le plan avait été mal combiné. Mais il se dit, maintenant il y a quelque chose d'autre qu'il faut bien faire, c'est mourir. Et sa gaieté revint. Dès le second jour qu'il passa à la forteresse, il se mit à la gymnastique. D'après le système extrêmement rationnel d'un Allemand nommé Müller, qui l'intéressait beaucoup. Il se déshabilla complètement et, à l'ébahissement de la sentinelle inquiète, il fit soigneusement les 18 exercices prescrits. Comme propagateur du système Müller, il était très satisfait de voir le soldat suivre ses mouvements. Bien qu'il sût qu'on ne lui répondrait pas, il dit à l'œil qui apparaissait au guichet « Voilà qui fait du bien, frère, ça vous donne des forces !» Voilà ce qu'on voudrait vous faire faire au régiment, ajouta-t-il d'une voix persuasive et douce, pour ne pas effrayer le soldat, sans se douter que celui-ci le prenait pour un fou. La peur de la mort se manifesta en lui progressivement, comme par choc. Il lui semblait que quelqu'un lui donnait d'en bas de violents coups de poing au cœur. Puis la sensation disparaissait, pour revenir au bout de quelques heures, et chaque fois, elle devenait plus intense et plus prolongée. Elle commençait déjà à prendre les contours vagues d'une angoisse insupportable. « Est-il possible que j'aie peur ?» pensa Serge avec étonnement. « Mais quelle bêtise !» Ce n'était pas lui qui avait peur, c'était son jeune corps robuste et vigoureux, que ni la gymnastique de Müller ni les douches froides ne parvenaient à tromper. Plus il devenait fort et frais après les ablutions d'eau froide, plus la sensation de peur éphémère devenait aiguë et insupportable. Et c'était le matin, après le sommeil profond et les exercices physiques, que cette peur atroce, comme étrangère, apparaissait, juste au moment où, naguère, il avait tout particulièrement conscience de sa force et de sa joie de vivre. Il s'en aperçut et se dit « Oh, tu es bête, mon ami. Pour que le corps meure plus facilement, il faut l'affaiblir et non pas le fortifier. » Il renonça dès lors à la gymnastique et au massage. Et pour expliquer cette volte-face, il cria aux soldats « Frère, la méthode est bonne, c'est seulement pour ceux qu'on va pendre qu'elle ne vaut rien. » En effet, il se sentit comme soulagé. Il essaya aussi de manger moins pour s'affaiblir davantage, mais malgré le manque d'air et d'exercice, son appétit demeurait excellent. Serge ne pouvait lui résister et mangeait tout ce qu'on lui apportait. Alors il eut recours à un subterfuge. Avant de se mettre à table, il versa la moitié de sa soupe dans le seau. Et cette méthode lui réussit. Une grande lassitude, un engourdissement vague s'emparèrent de lui. « Je t'apprendrai, » disait-il en menaçant son corps. Et il caressait tristement ses muscles amollis. Mais bientôt le corps s'habitua à ce régime, et la peur de la mort apparut de nouveau, non plus sous une forme aussi aiguë, mais comme une vague sensation de nausée, encore plus pénible. « C'est parce que ça dure longtemps, » pensa Serge. « Si seulement je pouvais dormir tout le temps jusqu'à l'exécution. » Il essaya de dormir le plus tôt possible. Il y réussit au commencement, puis l'insomnie survint, accompagnée de pensées obsédantes, et avec celles-ci le regret de la vie. « Mais ai-je donc peur d'elle ? » se demandait-il en pensant à la mort. « C'est la vie que je regrette. » C'est une chose admirable, quoi qu'en disent les pessimistes. Que dirait un pessimiste si on le pendait ? Oh oui, je regrette la vie, je la regrette beaucoup. Quand il comprit clairement que pour lui tout était fini avec la vie, qu'il n'avait plus devant lui que quelques heures d'attente dans le vide, puis la mort, il eut une impression bizarre. Il lui sembla qu'on l'avait mis à nu d'une manière extraordinaire. Non seulement on lui avait enlevé ses habits, mais aussi le soleil, l'air, le bruit et la lumière, la parole et la faculté d'agir. La mort n'était pas encore là, et la vie semblait déjà absente. Il éprouvait une sensation étrange, incompréhensible parfois, et parfois inintelligible, mais très subtile et mystérieuse. « Fille, s'étonnait Serge torturé, qu'est-ce donc, et moi, où suis-je donc ? Moi, mais quel moi ?» Il s'examina attentivement, avec intérêt, en commençant par ses larges pantoufles de prisonnier, pour s'arrêter au ventre sur lequel l'ample capote pendait. Il se mit à aller venir dans la cellule, les bras écartés, et continua à se regarder comme le ferait une femme, essayant une robe trop longue. Il voulut tourner la tête, elle tourna, et ce qui lui paraissait un peu effrayant, c'était lui, Serge Polovine, qui bientôt ne serait plus. Tout devint étrange. Il essaya de marcher, il lui sembla bizarre de marcher. Il essaya de s'asseoir et il fut surpris de pouvoir le faire. Il essaya de boire de l'eau. Il lui sembla bizarre de boire, d'avaler, de tenir le gobelet, de voir ses doigts qui tremblaient. Il se mit à tousser et pensa « Oh, comme c'est curieux, je tousse. Mais qu'ai-je donc, je deviens fou ?» se demanda-t-il. « Ah, il manque plus que ça. » Il s'essuya le front et ce geste lui parut également surprenant. Alors il se figea en une pose immobile, sans respirer, pendant des heures entières, lui semblait-il, éteignant toute pensée, retenant son souffle, évitant tout mouvement. Car toute pensée était une folie, tout geste une aberration. Le temps disparut comme s'il se fût transformé en espace transparent et sans air, en une immense place sur laquelle se trouvaient tout, et la terre, et la vie, et les hommes. Et on pouvait embrasser tout d'un seul coup d'œil, jusqu'à l'extrémité, jusqu'au gouffre inconnu, jusqu'à la mort. Et ce n'est pas parce qu'il voyait la mort que Serge souffrait, mais parce qu'il voyait la vie et la mort en même temps. Une main sacrilège avait relevé le rideau qui de toute éternité cachait le mystère de la vie et le mystère de la mort. Ils avaient cessé d'être des mystères, mais ils n'étaient pas plus compréhensibles que la vérité écrite dans une langue étrangère. « Et nous voilà revenus à Muller !» prononçait-il soudain à haute voix avec une profonde conviction. Il hocha la tête et se mit à rire, gaiement, sincèrement. « Ah, mon bon Muller, mon cher Muller, mon brave Allemand, c'est toi qui as raison, Muller, moi, frère Muller, je ne suis qu'un âne. » Il tourna vivement autour de sa cellule, et au grand étonnement du soldat qu'il observait par le guichet, il se déshabilla complètement et fit avec une exactitude scrupuleuse les 18 exercices. Il pliait et redressait son jeune corps un peu amaigri. Il s'accroupissait, aspirant l'air et le refoulait, se dressait sur la pointe des pieds, mouvait les bras et mouvait les jambes. « Oui, mais tu sais, Muller, » raisonnait Serge, en bombant sa poitrine, là où les côtes se dessinaient nettement sous la peau mince étendue. « Tu sais, Muller, il y a encore un 19e exercice, la pendaison par le cou en une position fixe, et cela s'appelle le supplice, comprends-tu, Muller ? On prend un homme vivant, Serge Golovin par exemple, on l'emmaillote comme une poupée et on le pend par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est bête, Muller, mais c'est comme ça, il faut s'y résigner. » Il se pencha sur le flanc droit et murmura « Il faut s'y résigner, Muller !» Chapitre 9. L'horrible solitude. Sous le même toit et au même chant mélodieux des heures indifférentes, séparés de Serge et de Moussia par quelques cellules vides, mais aussi isolés que si lui seul eût existé dans l'univers entier, le malheureux Vassili Kachirine terminait sa vie dans l'angoisse et la terreur. Couvert de sueur, la chemise collée au corps, ses cheveux autrefois bouclés retombant en mèches, il allait et venait dans sa cellule avec la démarche saccadée et lamentable de quelqu'un qui souffrirait atrocement des dents. Il s'asseyait un instant et se remettait à courir. Puis il appuyait son front contre le mur, s'arrêtait et cherchait les yeux comme un remède. Il avait tant changé qu'on pouvait supposer qu'il possédait deux visages différents, dont l'un, le jeune, s'en était allé on ne sait où, pour faire place au second, terrible celui-là, et comme sorti des ténèbres. La peur s'était manifestée tout d'un coup en lui et s'était emparée de sa personne en maîtresse exclusive et souveraine. Le matin fatal, alors qu'il marchait à la mort certaine, il avait joué avec elle. Mais le soir, enfermé dans sa cellule, il avait été emporté et fouetté par une vague de terreur folle. Tant qu'il était allé librement au-devant du danger de la mort, tant qu'il avait tenu son sort dans ses mains, quelque terrible qu'il dût être, il s'était montré tranquille, joyeux même, sa toute petite peur honteuse et caduque évanouie sans laisser de traces dans un sentiment de liberté infinie, dans l'affirmation audacieuse et ferme de sa volonté intrépide. Le corps ceinturé d'une machine infernale, il s'était transformé lui-même en instrument de mort. Il avait emprunté la raison cruelle de la dynamite et sa puissance fulgurante et homicide. Dans la rue, parmi les gens agités, préoccupés de leurs affaires, qui se garaient vivement des tramways et des fiacres, il lui semblait venir dans notre monde inconnu, où l'on ignorait la mort et la peur. Soudain, un changement brutal, affolant, s'était accompli. Vassili n'allait plus où il voulait, mais on le menait où on voulait. Ce n'était plus lui qui choisissait sa place. On le plaçait dans une cage de pierre et on l'enfermait à clé comme une chose. Il ne pouvait plus choisir à son gré la vie ou la mort. On le menait certainement, infailliblement, à la mort. Lui qui avait été pendant un instant l'incarnation de la volonté, de la vie et de la force, il était devenu un lamentable échantillon d'impuissance. Il n'était plus qu'un animal promis à l'abattoir. Quelles que fussent les paroles qu'il prononça, on ne l'écouterait plus. S'il se mettait à crier, on lui fermerait la bouche avec un chiffon. Et si même il voulait marcher, on l'emmènerait et on le pendrait. S'il résistait, s'il se débattait, s'il se couchait à terre, on serait plus fort que lui. On le relèverait, on le ligoterait et on le porterait ainsi à la potence. Et son imagination donnait aux hommes, pareils à lui, chargés de cette exécution, l'aspect nouveau, extraordinaire et terrifiant d'automates sans pensée que rien au monde ne pouvait arrêter et qui prenait, maîtrisait, pendait, tirait un homme par les pieds, coupait la corde, mettait le corps dans un cercueil, l'emportait et l'enterrait. Dès le premier jour de l'emprisonnement, les gens et la vie s'étaient transformés pour lui en un monde indiciblement affreux, peuplé de poupées mécaniques. Presque fou de peur, il essayait de se représenter que les gens avaient une langue et parlaient, mais il n'y arrivait pas. Les bouches s'ouvraient, quelque chose résonnait, puis ils se séparaient en remuant les jambes et c'était fini. Il était dans la situation d'un homme qui, resté seul dans une maison la nuit, verrait toutes les choses s'animer, se mouvoir et prendre sur lui un pouvoir illimité. Brusquement, l'armoire, la chaise, le canapé, la table à écrire se mettraient à le juger. Il crierait, appellerait au secours, supplierait, rôderait de pièce en pièce, et les choses parleraient entre elles dans leur langue. Puis l'armoire, la chaise, le canapé, la table à écrire iraient le pendre tandis que les autres choses regarderaient. Aux yeux de Vassili Kachérine, condamné à mort par pendaison, tout prit un aspect puéril. La cellule, la porte avec son guichet, la sonnerie de l'horloge qu'on remontait, la forteresse au plafond soigneusement modelée, et surtout la poupée mécanique munie d'un fusil qui allait et venait dans le corridor, et les autres poupées qui l'effrayaient en regardant par le guichet et lui tendaient sa nourriture sans mot dire. Un homme avait disparu du monde. Devant le tribunal, le voisinage des camarades avait fait revenir Kachérine à lui. De nouveau, pendant un instant, il vit les gens. Ils étaient là, le jugeaient, parlaient le langage des hommes, écoutaient et semblaient comprendre. Mais quand il aperçut sa mère, il sentit nettement, avec la terreur d'un homme qui devient fou et qui le comprend, que cette vieille femme en fichu noir était une simple poupée mécanique. Il s'étonna de ne pas s'en être douté auparavant et d'avoir attendu cette visite comme quelque chose d'infiniment douloureux dans sa douceur déchirante. Tout en s'efforçant de parler, il pensait, avec un frémissement, « Mon Dieu, mais c'est une poupée mère. Et voilà une poupée soldat. À la maison, il y a une poupée père, et ceci, c'est la poupée Vassili Kachérine. » Lorsque la mère se mit à pleurer, Vassili vit de nouveau en elle quelque chose d'humain qui disparut aux premières paroles prononcées. Il regarda avec curiosité et frayeur les larmes couler des yeux de la poupée. Quand la peur devint insupportable, Vassili Kachérine essaya de prier. Il ne lui restait qu'une rancœur amère, détestable et énervante de tous les principes religieux dont son adolescence avait été nourrie dans la maison de son père, un gros marchand. Il n'avait pas la foi. Mais un jour, dans son enfance, il avait entendu quelques paroles qui l'avaient frappé par leur émotion vibrante et qui restèrent entourés à jamais d'une douce poésie. Ses paroles étaient « joie de tous les affligés ». Parfois, aux minutes pénibles, il chuchotait, sans prier, sans même bien s'en rendre compte, « joie de tous les affligés ». Et alors il se sentait soulagé. Il avait envie de s'approcher de quelqu'un qui lui était cher et de se plaindre doucement. Notre vie, mais est-ce donc une vie? Eh, ma chère, est-ce donc une vie? Et ensuite, subitement, il se sentait ridicule. Il aurait voulu offrir sa poitrine au cou, proposer à quelqu'un de le battre. Il n'avait parlé à personne, pas même à ses meilleurs camarades, de sa joie de tous les affligés. Il semblait ne rien savoir d'elle lui-même, tant elle était profondément cachée dans son âme, et il l'évoquait rarement, avec précaution. Maintenant que la peur du mystère insondable qui se dressait devant lui le recouvrait complètement, comme l'eau recouvre les plantes du rivage pendant la crue, il voulait prier. Il eut envie de se mettre à genoux, mais la honte le prit devant la sentinelle. Et les mains joignes sur sa poitrine, il murmura à voix basse « joie de tous les affligés ». Et il répéta avec anxiété d'un ton suppliant « joie de tous les affligés, descends-moi, soutiens-moi ». Quelque chose s'agita doucement. Il lui sembla qu'une forme douloureuse et douce planait dans le lointain et s'éteignait, sans illuminer les ombres de l'agonie. Au clocher, l'heure sonna. Le soldat se mit à bâiller longuement à plusieurs reprises. « Joie de tous les affligés, tu te tais et tu ne veux rien dire, Vaska Kachirine. » Il eut un soupir suppliant et attendit. Mais dans son âme, il y avait le même vide qu'autour de lui. Des pensées inutiles et torturantes lui vinrent. Il revit les bougies de cire allumées, le prêtre en soutane, l'image sainte peinte sur le mur, son père qui se courbait, se redressait, priait et s'inclinait en jetant à Vaska des coups d'œil furtifs, pour voir si celui-ci priait aussi ou s'abusait. Mais Kachirine fut encore plus angoissée qu'auparavant. Tout disparut. La conscience s'éteignait comme un foyer mourant qu'on disperse. Elle se glaçait, pareil au cadavre d'un homme qui vient de décéder et dont le cœur est encore chaud, alors que les mains et les pieds sont déjà froids. Vassili eut un moment de terreur sauvage lorsqu'on vint le chercher dans sa cellule. Il ne soupçonna même pas que le moment du supplice était venu. Il vit simplement les gens et s'en effraya presque comme un enfant. « Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus » chuchota-t-il sans être entendu. Et ses lèvres se glacèrent, tandis qu'il reculait lentement vers le fond de la cellule, comme dans son enfance quand il essayait de se soustraire aux punitions de son père. Il faut aller. On parla, on marcha autour de lui, on lui donna une ne su quoi. Il ferma les yeux, chancela et commença à se préparer péniblement. La conscience lui revenait sans doute. Il demanda sous l'œil une cigarette à un fonctionnaire. Avec amabilité, celui-ci lui présenta un étui. Chapitre 10. Les murailles s'écroulent. L'inconnu surnommé Werner était un homme fatigué de la lutte. Il avait passionnément aimé la vie, le théâtre, la société, l'art et la littérature. Doué d'une excellente mémoire, il parlait parfaitement plusieurs langues. Il aimait à s'habiller, avait d'excellentes manières. De tout le groupe des terroristes, il était le seul qui sut paraître dans le monde sans courir le risque d'être reconnu. Depuis longtemps déjà, et sans que ses camarades s'en fussent aperçus, il avait un profond mépris pour les hommes. Plutôt mathématicien que poète, il ignorait jusqu'à ce que sont l'extase et l'aspiration. Par moments, il se considérait comme un fou qui cherche la quadrature du cercle dans des mares de sang humain. L'ennemi contre lequel il luttait tous les jours ne pouvait lui inspirer le respect. Ce n'était qu'un réseau compact de bêtises, de trahisons, de mensonges, de viles tromperies. La dernière chose qui avait détruit en lui, et pour toujours, lui semblait-il, le désir de vivre, c'était l'exécution, sur l'ordre de son parti, d'un agent provocateur. Il l'avait tué, tranquillement, mais à la vue de ce visage humain, inanimé, calme, mais faux encore, pitoyable malgré tout, il cessa brusquement de s'estimer, lui et son œuvre. Il se considéra comme l'être le plus indifférent, le moins intéressant qui fût. En homme de volonté qu'il était, il ne quitta pas son parti. Apparemment, il resta le même, mais il y eut désormais dans ses yeux quelque chose de froid et de terrifiant. Mais il n'en dit rien à personne. Il possédait encore une qualité très rare. Il ignorait la peur. Il avait pitié de ses camarades qui éprouvaient ce sentiment, de Vassili Kachirine surtout. Mais c'était une pitié froide, presque officielle. Werner comprenait que le supplice n'était pas simplement la mort, mais encore quelque chose de plus. En tout cas, il résolut de l'accueillir avec calme, de vivre jusqu'à la fin comme si de rien ne s'était passé et ne se passerait. C'était de cette manière seulement qu'il pouvait exprimer le plus profond mépris pour le supplice et conserver sa liberté d'esprit. Au tribunal, ses camarades, qui connaissaient cependant bien son inquiétude et son intrépidité altière et froide, n'auraient peut-être pas cru eux-mêmes, il ne pensa ni à la vie ni à la mort. Il jouait mentalement une difficile partie d'échecs avec l'attention la plus profonde et la plus tranquille. Excellent joueur, il avait commencé cette partie le jour même de son emprisonnement et la continuait sans relâche. Et le verdict qui le condamnait ne déplaça aucune pièce sur l'échiquier invisible. L'idée qu'il ne terminerait probablement pas la partie n'arrêtait pas Werner. Le matin du dernier jour, il commença par corriger un coup qui ne lui avait pas réussi la veille. Les mains serrées entre les genoux, il resta longtemps assis, dans l'immobilité. Puis il se leva et se mit à marcher en réfléchissant. Et il avait une démarche particulière. Il penchait un peu en avant le haut du corps et frappait les talons avec force. Même quand la terre était sèche, ses pas laissaient une trace nette. Il sifflotait doucement une mélodie italienne peu compliquée, ce qui l'aidait à réfléchir. Mais voilà qu'il haussait les épaules et se tâtait le pouls. Le cœur battait à coups rapprochés, tranquilles et égaux, avec une force sonore. Comme un novice jeté en prison pour la première fois, il examina attentivement la cellule, les verrous, la chaise vissée au mur, et se dit « Mais pourquoi ai-je une telle sensation de joie, de liberté ?» Oui, de liberté. Je pense à l'exécution de demain, il me semble qu'elle n'existe pas. Je regarde les murs et il me semble qu'ils n'existent pas non plus. Et je me sens libre, comme si, au lieu d'être en prison, je venais de sortir d'une autre cellule où j'aurais été enfermé pendant toute la vie. Les mains de Werner se mirent à trembler, phénomène inconnu pour lui. La pensée devenait de plus en plus vibrante. Il lui semblait que dans sa tête des langues de feu s'agitaient et voulaient s'échapper de son cerveau afin d'éclairer le lointain encore obscur. Enfin, les flammes parvinrent à jaillir et l'horizon s'illumina d'une vive clarté. La vague lassitude qui avait tourmenté Werner pendant les deux dernières années avait disparu à la vue de la mort. Sa belle jeunesse revenait en jouant. C'était plus même que la belle jeunesse. Avec l'étonnante clarté d'esprit qui élève parfois l'homme sur les sommets suprêmes de la méditation, Werner vit soudain et la vie et la mort. Et la majesté de ce spectacle nouveau le frappa. Il lui sembla suivre un sentier étroit, comme le tranchant d'une lame, sur la crête de la plus haute montagne. D'un côté, il voyait la vie, et de l'autre, il voyait la mort. Et c'était comme deux mers profondes, étincelantes et belles, confondues à l'horizon d'une seule étendue infinie. Qu'est-ce donc ? « Quel spectacle divin !» dit-il lentement. Il se leva involontairement et se redressa comme s'il eût été en présence de l'être suprême. Et, anéantissant les murailles, l'espace et le temps, par la force de son regard qui pénétrait tout, il jeta les yeux au fond de la vie qu'il avait quittée. Et la vie prit un aspect nouveau. Il n'essaya plus de traduire en paroles ce qu'il voyait comme autrefois. D'ailleurs, il ne trouvait pas de mots adéquats dans tout le langage humain, encore si pauvre et si avare. Les choses mesquines, malprobes et mauvaises, qui lui suggéraient du mépris et même parfois du dégoût à la vue des hommes, avaient complètement disparu. C'est ainsi que, pour ceux qui s'élèvent en ballon, la boue et la saleté des rues étroites sont invisibles, et que la laideur se mue en beauté. D'un mouvement inconscient, Werner marcha vers la table et s'y accouda du bras droit. Hautain et autoritaire par nature, on ne lui avait jamais vu une attitude plus fière, plus libre et plus impérieuse, ni un pareil regard, ni un tel redressement de tête, car jamais encore il n'avait été aussi libre et aussi puissant que maintenant, dans cette prison au seuil du supplice et de la mort. Devant ses yeux illuminés, les hommes prirent un aspect nouveau, une beauté et un charme inconnus. Ils planaient au-dessus du temps, et jamais ne lui était apparu si jeune cette humanité qui, la veille encore, hurlait comme un fauve dans les forêts. Ce qui lui avait semblé jusqu'ici terrible, impardonnable et vil, devenait tout à coup touchant et naïf. De même, on rechérit chez l'enfant la gaucherie de la démarche, le bégaiement décousu, où étincelle le génie inconscient. Les erreurs et les bévues nuisibles, les cruelles meurtrissures. Mes chers amis, Werner sourit soudain et son attitude perdit sa force altière et imposante. Il redevint le prisonnier qui souffre dans sa cellule étroite, qui s'ennuie de voir constamment un œil curieux le fixer au travers de la porte. Il s'assit sans que son corps prît la pose raide qui lui était coutumière, et il considéra les murs et les grillages avec un sourire faible et doux qu'il n'avait jamais eu. Et quelque chose se passa qui ne lui était encore jamais arrivé. Il pleura. « Mes chers camarades, chuchota-t-il en versant des larmes amères, mes chers camarades !» Quelle voie mystérieuse avait-il suivie pour passer du sentiment de liberté illimitée et hautaine à cette pitié passionnée et attendrie ? Il ne le savait pas. Avait-il vraiment pitié de ses camarades ou bien ses pleurs cachaient-ils quelque chose de plus passionné, de plus grand encore ? Son cœur, qui avait soudain ressuscité et refleuri, l'ignorait. Werner pleurait et chuchotait. « Mes chers camarades, mes chers camarades. » Et dans cet homme qui pleurait et souriait à travers ses larmes, personne, ni les juges, ni les camarades, ni lui-même, n'aurait reconnu le Werner froid et hautain, sceptique et insolent. Chapitre 11. On le mène au supplice. Avant de monter dans les voitures, les condamnés furent réunir tous les cinq dans une grande pièce froide au plafond voûté, pareille à un bureau abandonné ou à une salle de réception inutilisée. On leur permit de se parler. Seule Tania Kowalczuk profita immédiatement de l'autorisation. Les autres serraient en silence des mains froides comme la glace ou chaude comme le feu. Muets, s'efforçant de ne pas se regarder, ils se rassemblèrent en un groupe confus et distrait. Réunis maintenant, ils semblaient avoir honte de ce que, individuellement, ils avaient éprouvé dans la solitude. Ils avaient peur de se regarder, peur de montrer la chose nouvelle, particulière, un peu gênante, qu'ils sentaient ou soupçonnaient entre eux. Ils se regardèrent cependant, sourirent une ou deux fois, et tous se trouvèrent à l'aise comme auparavant. Aucun changement ne se devinait, ou s'il s'était passé quelque chose, tous en avaient pris une part égale, si bien qu'ils ne remarquaient rien de spécial en chacun d'eux. Tous parlaient, se mouvaient d'une manière bizarre, saccadés par impulsion trop fortement ou trop vite. Parfois l'un d'eux répétait vivement les mêmes mots, ou bien n'achevait pas une phrase commencée, ou croyait l'avoir dite. Et ils ne remarquaient rien de tout cela. Tous clignaient des yeux, examinaient, sans les reconnaître, des objets familiers, ainsi que des gens qui auraient soudain enlevé leur lorgnon. Ils se retournaient souvent et avec vivacité, comme si derrière eux quelqu'un les appelait. Mais ils ne s'en apercevaient pas. Les joues et les oreilles de Moussia et de Tania étaient brûlantes. D'abord, Serge était un peu pâle. Il se remit bientôt et se montra comme d'habitude. C'était à Vassili seulement qu'on faisait attention. Même parmi eux, il était extraordinairement et terrible. Werner s'émut et dit à voix basse à Moussia, avec une anxiété profonde, « Qu'y a-t-il, Moussia? Est-il possible qu'il ait... il faut lui parler. » Vassili regardait Werner de loin, comme s'il ne l'avait pas reconnu. Puis il baissa les yeux. « Vassili, qu'est-ce que tes cheveux ont donc? Qu'as-tu? »« Ce n'est rien, frère, ce sera bientôt fini. Il faut se maîtriser, il le faut. » Vassili garda le silence. Et lorsqu'on pouvait déjà croire qu'il ne dirait absolument rien, une réponse vint, sourde, tardive, terriblement lointaine. C'est ainsi que le tombeau doit répondre quand on l'appelle longtemps. « J'ai rien, je me méprise. » Il répéta, « Oui, je me maîtrise. » Werner en fut réjoui. « Bien, bien, tu es un brave garçon, c'est bien. » Mais lorsque son regard croisa le regard sombre, apesanti de Vassili, il ressentit une angoisse éphémère en se demandant « Mais d'où regarde-t-il? D'où parle-t-il ?» Et sur un ton de profonde tendresse, il dit « Vassili, tu entends? Je t'aime beaucoup. » « Et moi aussi, je t'aime beaucoup, » répliqua une langue qui se mouvait péniblement. Soudain, Moussia prit Werner par le bras et exprimant son étonnement avec force, comme une actrice en scène, elle dit « Werner, qu'as-tu ? Tu as dit « je t'aime ». Tu n'as jamais dit cela à personne. Et pourquoi as-tu un visage si étincelant et une voix si tendre ? Mais qu'est-ce, qu'est-ce ? » Et, pareil aussi à un acteur qui appuie sur les mots, Werner répondit en serrant avec force la main de la jeune fille. « Oui, j'aime maintenant, ne le dis pas aux autres, j'en suis honteux, mais j'aime passionnément mes frères. » Leurs regards se rencontrèrent et s'enflammèrent. Autour d'eux, tout s'éteignit. Ainsi, toutes les cartes pâlissent dans l'éclair fugitif de l'éclair. « Oui, dit Moussia, oui, Werner. » « Oui, répondait-il, oui, Moussia, oui. » Ils avaient compris quelque chose et le ratifiaient à jamais. Des yeux étincelants, Werner s'agita de nouveau et se dirigea à pas rapide vers Serge. « Serge !» Mais ce fut Anya Kovalchuk qui répondit. Pleine de joie, pleurant presque de fierté maternelle, elle tiraillait violemment Serge par la manche. « Écoute donc, Werther, je pleure à cause de lui, je me tourmente et lui, il fait de la gymnastique. »« Système Müller ?» demanda Werner en souriant. Serge fronça les sourcils un peu confus. « Tu as tort de rire, Werner. J'ai pu me convaincre avec certitude. » Tout le monde se mit à rire. Puissant de la force et de la fermeté dans la communion mutuelle, ils en devenaient peu à peu ce qu'ils étaient auparavant. Ils ne s'en apercevaient pas et pensaient qu'ils étaient toujours les mêmes. Soudain, le rire de Werner se brisa. Avec une gravité parfaite, il dit à Serge « Tu as raison, Serge, tu as parfaitement raison. » « Mais comprends donc ceci, » reprit Serge, satisfait bien entendu. « Nous !» À ce moment, on leur proposa de monter dans les véhicules. On eut même l'amabilité de leur permettre de se placer à leur guise, deux par deux. En général, on était très aimable avec eux, trop même. Était-ce pour essayer de leur témoigner un peu d'humanité, ou pour leur montrer qu'on n'était pour rien dans ce qui se passait, que tout se faisait de soi-même? On le sait. Mais tous les assistants étaient pâles. « Va avec lui, Moussia !» dit Werner en désignant à la jeune fille Vassili, qui restait immobile. « Je comprends, » répondit-elle en hochant la tête. « Mais toi ? Moi ? Oh ! Tania ira avec Serge, toi avec Vassili. Moi, je serai seul, qu'importe, je puis supporter cela, tu le sais. » Lorsqu'on arriva dans la cour, l'obscurité humide et tiède frappa doucement les visages et les yeux, coupa les respirations, s'insinua dans les corps frissonnants et frémissants qu'elle purifia. Il était difficile de croire que ce stimulant était tout simplement le vent, un vent printanier, doux et moite. L'étonnante nuit de printemps sentait la neige fondue, l'espace infini, elle faisait résonner le pierre. Vives et affairées, des goulettes d'eau tombaient rapidement en se poursuivant. Elle composait avec ensemble une chanson sonore. Mais si l'une d'elles retardait ou avançait, tout s'embrouillait en un clapotis joyeux, en une confusion animée. puis une grosse goutte sévère frappait avec force, et de nouveau la chanson printanière rythmée et sonore reprenait. Au-dessus de la ville, plus haut que les murs de la forteresse, il y avait le pâle halo des lumières électriques. Serge Golovin poussa un profond soupir, puis il retint son souffle, comme s'il eût regretté de chasser de ses poumons un air si pur et si frais. « Y a-t-il longtemps qu'il fait beau ?» s'informa Werner. « C'est le printemps !»« Depuis hier seulement, » répondit-on avec politesse et empressement. « Oh, il y a eu beaucoup de jours froids. » L'une après l'autre, les voitures arrivaient, prenaient deux personnes et s'en allaient, dans l'obscurité, vers l'endroit où une lanterne vacillait au portail. Autour de chaque véhicule se mouvaient les silhouettes grises des soldats. Les sabots de leurs chevaux résonnaient avec force. Souvent, les bêtes glissaient sur la neige mouillée. Quand Werner se courba pour entrer dans le véhicule, un gendarme lui dit d'une manière vague « Ah, il y en a un autre qui va avec vous !» Werner s'étonna « Qui va où ?»« Ah oui, oui, encore un !»« Qui est-ce ?» Le soldat garda le silence. En effet, dans un angle obscur, se pelotonnait quelque chose de petit, d'immobile, mais qui vivait. Un œil ouvert brilla sous un rayon oblique de la lanterne. En s'asseyant, Werner frôla un genou de son pied. « Oh, pardon, camarade !» On ne lui répondit pas. Ce fut seulement quand la voiture se mit en marche que l'homme lui demanda, en hésitant, en mauvais russe, « Qui êtes-vous ? » Je m'appelle Werner, condamné à la pendaison pour attentat contre XX. Et vous ? » Je suis Lanson. Il ne faut pas me pendre. » Dans 2 heures, il serait face à face avec le grand mystère jusque-là indéchiffré. Dans 2 heures, il sortirait de la vie pour entrer dans la mort. C'est là qu'ils allaient tous les deux, et ils firent connaissance. La vie et la mort marchaient simultanément sur 2 plans, et jusqu'à la fin, jusque dans les détails les plus risibles et les plus stupides, la vie restait la vie. Qu'avez-vous fait, vous, Lanson ? Oh, je frappais mon patron avec un couteau. J'ai volé de l'argent. D'après le son de sa voix, il semblait que Lanson s'endormait. Werner trouva dans l'ombre sa main molle et la serra. Lanson la retira avec indolence. Tu as peur ? Demanda Werner. Mais je ne veux pas être pendu. Ils gardèrent le silence. Werner trouva de nouveau la main de l'Estonien et la serra fortement entre ses paumes sèches et brûlantes. Elle resta immobile, mais Lanson n'essaya plus de la dégager. On étouffait dans la voiture trop étroite qui sentait le renfermé, le drap de soldat, le fumier et le cuir de bottes mouillées. Un jeune gendarme, assis en face de Werner, envoyait sans cesse sur celui-ci une haleine puant l'ail et le mauvais tabac. Mais l'air vif et frais arrivait par des fentes, et grâce à cela, on sentait la présence du printemps dans la petite boîte mouvante, avec plus de faire force encore que dehors. Le véhicule tournait tantôt à droite, tantôt à gauche. Parfois, il semblait retourner en arrière. Par moments, il paraissait aux prisonniers qu'il virait en rond depuis des heures. D'abord, la lumière bleuâtre de l'électricité se glissait entre les épais rideaux baissés. Puis, soudain, après un tournant, l'obscurité se fit. Ce fut à cet indice que les voyageurs devinèrent qu'ils étaient arrivés dans les faubourgs et s'approchaient de la gare de S. Parfois, à un contour brusque, le genou plié et vivant de Werner frôlait amicalement le genou plié et vivant du gendarme, et il était difficile de croire au supplice prochain. « Où allons-nous ? » demanda soudain Alençon. La trépidation continue et prolongée de la sombre voiture lui donnait le vertige et un peu de nausée. Werner répondit et serra plus fort la main de l'Estonien. Il aurait voulu dire des paroles particulièrement amicales et douces à ce petit homme endormi, qu'il aimait déjà plus que personne au monde. « Cher ami, je crois que tu es mal assis. Rapproche-toi de moi. » Benson garda le silence. Au bout d'un moment, il répondit « Non, merci, je suis bien. Et toi, on te pendra aussi ?»« Oui, » répliqua Werner avec une gaieté inattendue, en riant presque. Il fit un geste aisé et dégagé, comme s'ils avaient parlé d'une plaisanterie futile et bête que voulaient leur jouer les gens affectueux, mais terriblement farceurs. « Tu as une femme ?» demanda Lançon. « Non, une femme, moi non, je suis seul. Moi aussi, je suis seul. » Werner commençait aussi à avoir le vertige. Par moments, il lui semblait qu'il se rendait à une fête. Chose bizarre, presque tous ceux qui allaient au supplice avaient la même impression. Bien qu'en proie à la peur et à l'angoisse, il se réjouissait vaguement de la chose extraordinaire qui allait se passer. La réalité s'enivrait de folie, et la mort, s'accouplant à la vie, engendrait des fantômes. Ah, nous voilà arrivés, dit Werner, gai et curieux, lorsque la voiture s'arrêta. Il sauta aisément sur le sol. Il n'en fut pas de même pour Lançon, qui résistait, sans mot dire, très paresseusement, semblait-il, et qui refusait de descendre. Il s'accrochait à la poignée. Le gendarme détachait les faibles doigts et saisissait le bras. Ivan se retenait à l'angle, à la porte de la haute tour, et cédait à la première intervention du gendarme. Il se collait aux choses plutôt qu'il ne s'y agrippait, et il n'était pas nécessaire de déployer beaucoup d'efforts pour l'en détacher. Enfin, on eut raison de lui. Comme toujours, pendant la nuit, la gare était sombre, déserte et inanimée. Les trains de voyageurs avaient déjà passé. Et pour le train qui attendait les prisonniers sur la voie, il n'avait pas besoin de lumière ni d'agitation. Mais l'ennui s'empara de Werner. Il n'avait pas peur, il n'était pas angoissé, mais il s'ennuyait d'un ennui immense, lourd, fatigant, qui lui donnait envie de s'en aller n'importe où, de se coucher et de fermer les yeux. Il s'étira et bâilla vivement à plusieurs reprises. « Oh, si seulement on allait plus vite !» dit-il fatigué. Bjornson garda le silence et frémit. Lorsque les condamnés passèrent sur le quai des airs, entourés de soldats, pour se diriger vers les wagons mal éclairés, Werner se trouva placé à côté de Serge Golovin. Celui-ci désigna quelque chose de la main et se mit à parler. Son voisin ne comprit distinctement que le mot « lampe ». Le reste de la phrase se perdit dans un bâillement long et prolongé. « Que dis-tu ?» demanda Werner en bâillant aussitôt. « Le réverbère !»« La lampe du réverbère fume !» dit Serge. Werner se retourna. En effet, c'était vrai. Les verres étaient déjà tout noirs. « Oui, oui, elle fume !» Soudain, il pensa « Que m'importe que la lampe fume, alors que... » Et Serge eut sans doute la même idée. Il jeta un coup d'œil rapide sur Werner et détourna la tête. Mais tous deux cessèrent de bâiller. Tous marchèrent sans encombre jusqu'au train. Bjornson seul dut y être conduit. D'abord, il raidit les jambes, colla ses semelles aux planches du quai, puis il plia les genoux. Tout le poids de son corps retomba sur les bras des gendarmes. Ses jambes traînaient sur le sol comme celles d'un homme ivre, et la pointe de ses bottes grinçait sur le bois. Avec mille peines, mais en silence, on le hissa dans le wagon. Vassili Machérin lui-même marchait sans appui. Il imitait inconsciemment les gestes de ses camarades. Parvenu au sommet des marches du wagon, il recula. Un gendarme le prit au coude pour le soutenir. Alors Vassili se mit à trembler violemment et poussa un cri perçant en repoussant le gendarme. « Aïe !»« Vassili, qu'as-tu ?» demanda Werner, qui se précipita vers lui. Vassili garda le silence, toujours secoué de frissons. Le gendarme, vexé, chagriné même, expliqua « Je voulais le soutenir, et lui, il... »« Viens, Vassili, je te soutiendrai, » dit Werner. Il voulut prendre le bras de son camarade, mais celui-ci le repoussa et cria encore plus fort. « Vassili, c'est moi, Werner !»« Non, je sais, ne me touche pas, je veux marcher seul. » Et continuant à trembler, il entra dans le wagon et s'assit dans un coin. Werner se pencha vers Moussaïa et lui demanda à voix basse en désignant la Vassili du regard. « Eh bien, comment va-t-il »«
Mal !»
répondit Moussaïa en chuchotant. « Il est déjà mort. »« Dis-moi, Werner, y a-t-il vraiment une mort ?»«
Bon, je ne sais pas, Moussaïa, mais je crois que non, »
répondit Werner d'un ton grave et pensif. « C'est ce que je pensais. Et lui, oh, j'ai souffert à cause de lui, dans la voiture, il me semblait que je voyageais à côté d'un mort.
Mort, je ne sais pas, Moussia. Peut-être la mort existe-t-elle encore pour quelques-uns. Plus tard, elle n'existera plus du tout. Pour moi, par exemple, la mort a existé. Mais maintenant, elle n'existe plus. Les joues un peu pâles de Moussia s'enflammèrent. Elle a existé pour toi, Werner? Pour toi? Oui, mais plus maintenant. Comme pour toi. On entendit du bruit à la porte du wagon. Mishka, le zigane, entra en crachant, en respirant bruyamment, en faisant résonner avec force les talons de ses bottes. Il jeta un regard autour de lui et s'arrêta. « Bien plus de place, gendarme !» déclara-t-il au gendarme fatigué et irrité. « Fais-moi voyager confortablement, sinon je n'irai pas avec toi. Pends-moi plutôt ici, au réverbère. Oh, les grenins, quelle voiture ils m'ont donnée. Ça, une voiture? Les entrailles du diable, oui, mais pas une voiture. » Mais soudain, il pencha la tête, tendit le cou et avança aussi vers les autres condamnés. Dans le cadre de ses cheveux et de sa barbe embroussaillée, ses yeux noirs lançaient un regard sauvage, aigu et un peu fou. « Oh, mon Dieu !» cria-t-il en traînant les mains. « Voilà où nous en sommes. Bonjour, monsieur !» Il s'assit en face de Werner en lui tendant les mains. Puis, en clignant de l'œil, il se pencha et passa rapidement la main sur le cou de son compagnon. « Toi aussi, hein ?»« Oui, sourit Werner. »« Tous ?»« Oui, tous. »« Oh !» dit le tzigane en découvrant les dents. Il examina les autres condamnés d'un coup d'œil rapide, qui toutefois s'arrêta plus longtemps sur Moussia et sur Lanson. « À cause du ministre ?»« Oui, et toi ?»« Oh, mon monsieur, c'est une autre affaire. Moi, je ne suis pas aussi distingué. Moi, monsieur, oh, je suis un brigand, un assassin. » « Ça ne fait rien, monsieur. Serre-toi un peu pour me faire place. Ce n'est pas de ma faute si on m'a mis en votre compagnie. Bon, dans l'autre monde, il y aura de la place pour tous. » Il mesura tous les assistants d'un coup d'œil vigilant, défiant et sauvage. Mais on le regardait sans parler, gravement, et même avec une compassion évidente. Il découvrit de nouveau les dents et frappa à plusieurs reprises sur le genou de Werner. « C'est comme ça, monsieur. Comme on dit dans la chanson, ne fais pas de bruit, verte forêt de chêne. Pourquoi m'appelles-tu monsieur ? Alors que tous nous... »« Oh, tu as raison, » acquiesça le zigane avec satisfaction. « Quel monsieur serais-tu, puisque tu vas être pendu à côté de moi. Voilà celui qui est le vrai monsieur. » Et il dirigea le doigt vers le gendarme silencieux. « Et votre camarade là-bas, il n'emmène pas large ?» ajouta-t-il en désignant les yeux Vassili. « Monsieur, oh monsieur, tu as peur, hein ?»« Non, » répondit une langue qui remuait avec peine. « Ah non, non, il ne faut pas le gêner. Il n'y a rien de honteux à cela. Ce sont les chiens seulement qui agitent la queue et découvre les dents quand on va les pendre. Mais toi, tu es un homme. Et ce pochinchinelle-là, qui est-ce? Il n'est pas des vôtres.
Ses yeux dansaient sans cesse. Constamment, il crachait avec un sifflement sa salive abondante et douceâtre. Et Lançon, immobile, pelotonné dans un coin, agita un peu les oreilles de sa casquette de fourrure pelée, mais ne dit rien. Berner répondit à sa place, « Oh, il a égorgé son patron !»« Mon Dieu !» dit le Zigane étonné, « Comment permet-on à des oiseaux pareils d'égorger les gens ?» Depuis un moment, il examinait Moustilla, la dérobée. Soudain, il se tourna vivement et fixa sur elle un regard droit et perçant. « Mademoiselle et mademoiselle, qu'avez-vous donc? Vos joues sont toutes roses et vous riez. Regarde, elle rit vraiment. Mais regarde, regarde !» Et il saisit le genou de Werther de ses doigts proscrits. Bougissante, un peu confuse, Moussia planta ses yeux dans les yeux attentifs et sauvages qui la questionnaient. Tous gardèrent le silence. Les petits wagons bondissaient sur la voie étroite et couraient avec empressement. Un tournant ou un passage à niveau, la sirène siffla. Le mécanicien avait peur d'écraser quelqu'un. N'était-il pas atroce de penser qu'on apportait tant de soins, d'efforts, en un mot, toute l'activité humaine, à conduire ces hommes à la pendaison? La chose la plus insensée de la terre s'accomplissait sous un aspect simple et raisonnable. Les wagons couraient, des gens y étaient assis comme d'habitude, voyageaient comme on voyage généralement. Puis il y aurait un arrêt, comme toujours, 5 minutes d'arrêt. Et alors viendrait la mort, l'éternité, le grand mystère. Chapitre 12. Ils sont arrivés. Le train avançait avec rapidité. Serge Golovin se souvenait d'avoir passé l'été quelques années auparavant dans une petite campagne située sur le même chemin. Il s'y était promené souvent le jour et la nuit. Il la connaissait bien. En fermant les yeux, il pouvait s'imaginer qu'il y retournait par le dernier train après s'être attardé chez des amis. « J'arriverai bientôt, » pensa-t-il en se redressant. Et ses yeux rencontrèrent la sombre fenêtre grillée. Autour de lui, rien ne bougeait. Seul Zigane crachotait continuellement, et ses yeux, courant le long du wagon, semblaient toucher les portes, les soldats. « Il fait froid !» dit Vassili Kachirine, entre ses lèvres minces et qui paraissaient gelées. Tania Kowalchuk s'agita, malin, maternelle. « Mais voilà un fichu très chaud pour vous envelopper. »« Le coup ?» demanda Serge, et il eut peur de sa question. Qu'importe, Vassilia, prends-le. Enveloppe-toi, tu auras plus chaud, ajouta Werner. Il se tourna vers Lançon et lui demanda tendrement, et toi, tu n'as pas froid? Werner, il veut peut-être fumer. Camarade, voulez-vous fumer? Demanda Moussilla. Nous avons du tabac. « Je veux bien. Donne-lui une cigarette, Serge, dit Werner. Mais Serge lui tendait déjà son étui. Et tous se mirent à regarder avec tendresse comment les doigts inhabiles de Lançon prenaient la cigarette, comment s'enflammait l'allumette et comment, de sa bouche, sortait une petite fumée bleuâtre. « Merci, dit Lançon, c'est bon. » « Que c'est drôle ! » dit Serge. « Qu'est-ce qui est drôle ? » demanda Werner. « Mais la cigarette, » répondit Serge, qui ne voulait pas dire toute sa pensée. Janssen tenait la cigarette entre ses doigts vivants et pâles. Avec étonnement, il la regardait. Et tous fixaient leur regard sur ce petit bout de papier, sur cette petite spirale de fumée sortant de la cendre grise. La cigarette s'éteignit. « Elle s'est éteinte, » dit Tania. « Oui, elle s'est éteinte. »« Mais que le diable l'emporte, » dit Werner, regardant avec inquiétude Janssen, dont la main tenait la cigarette, pendait comme morte. Soudain, le Zigane se retourna, pencha son visage tout près de celui de Werner, et le regardant dans le blanc des yeux, chuchota « Mais monsieur, si on attaquait les soldats du convoi, qu'en pensez-vous ? » « Non, » répondit Werner. « Mais pourquoi ? Il vaut mieux finir en combattant. Je donnerai un coup, on m'en donnera un autre, et je mourrai sans m'en apercevoir. Non, 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 il ne faut pas, dit Werner. Et il se tourna vers Janssen. Pourquoi ne fumes-tu pas ? Le visage desséché de Janssen se plissa d'un air pitoyable, comme si quelqu'un avait tiré les fils qui mouvaient les rides de sa figure. Comme dans un cauchemar, Lanson sanglota sans larmes, d'une voix blanche. « Je ne veux pas fumer. Il ne faut pas me pendre. » Tout le monde se tourna vers lui. Tania, pleurant abondamment, lui caressait les bras et rajustait son bonnet. « Mon cher, mon ami, ne pleure pas, mon ami, mon pauvre ami !» Et tout à coup, les wagons s'entrechoquèrent et ralentirent leur marche. Les condamnés se levèrent, mais se rassirent aussitôt. « Nous sommes arrivés !» dit Serge. C'était comme si, subitement, on avait pompé tout l'air de la voiture. Il devenait difficile de respirer. Les cœurs dilatés pesaient dans la poitrine, montaient vers la gorge, battaient désespérément et le sang, dans sa terreur, semblait se révolter. Les yeux regardaient le plancher trépidant, les oreilles écoutaient les roues qui roulèrent toujours plus lentement, roulèrent encore, puis s'arrêtèrent doucement. Le train stoppa. Une étrange torpeur enveloppa les condamnés. Ils ne souffraient pas. Ils semblaient vivre d'une vie inconsciente. Leur être sensible était absent. Seul son fantôme se mouvait, parlait sans voix, marchait en silence. On sortit, on se rangea par deux en aspirant l'air frais de la forêt. Comme dans un rêve, Lanson se débattait gauchement. On l'arracha du wagon.
« Nous irons à pied ?» demanda quelqu'un, presque gaiement.
« Oh, ce n'est pas loin !» répondit une voix insouciante.
Sans rien dire, on s'avançait dans la forêt, le long d'un chemin boueux et humide. Les pieds glissaient, s'enfonçaient dans la neige, et les mains s'accrochaient parfois involontairement à celle des camarades. Respirant avec peine, les soldats marchaient en file de chaque côté des condamnés.
Une voix irritée prononça « Mais tout pourrait-on traverser le chemin, le tracé, on a peine à avancer ?»
Une voix déférente répondit « On a bien nettoyé votre noblesse, mais c'est le dégel, il n'y a rien à faire. »
Chez les condamnés, la conscience revenait, mais partielle. Tantôt, la pensée semblait confirmée.
Mais c'est vrai, on ne pouvait pas nettoyer le chemin. Et tantôt, elle s'obscurcissait de nouveau.
Il ne restait que l'odorat qui percevait avec une acuité singulière la senteur forte et saine de la forêt.
Tantôt encore, tout redevenait très clair, très compréhensible, et la forêt, et la nuit, et le chemin, et la certitude que tout à l'heure, dans une minute, la mort implacable les saisirait. Et petit à petit, un chuchotement s'élevait.
« Il est 4 heures bientôt. »«
Je l'ai dit, nous sommes partis trop tôt. »«
Il fait 5 jours à 5 heures. »«
C'est cela, 5 heures. »« Il fallait donc attendre. »
On s'arrêta dans la cueillère obscure. Près de là, derrière les arbres dont l'ombre immense s'agitait sur le sol, se balançaient silencieusement 2 lanternes. C'est là qu'étaient dressées les potences.
« J'ai perdu un de mes caoutchoucs !» dit Serge.
« Eh bien ?» demanda Werner sans comprendre.
« Je l'ai perdu, j'ai froid !»
« Où est Vassili ?»«
Je sais pas, voilà. »
Sombre et immobile, Vassili se tenait tout près d'eux.
« Où est Moussia ?»«
Me voici.
C'est toi, Werner ?»
On se regardait, évitant de se tourner du côté où, silencieusement et terriblement significative, se balançaient les lanternes. À gauche, la forêt clairsemée semblait s'éclaircir encore. Et au-delà, quelque chose de vaste, de gris, de plat apparaissait, d'où venait un vent humide.
« C'est la mer !» dit Serge en humant les souffles.
« C'est la mer !»
Moussia répondit par les vers de la chanson « Mon amour large comme la mer. »
« Que dis-tu, Moussia ?»«
Les rives de la vie ne peuvent contenir mon amour large comme la mer. »«
Mon amour large comme la mer, » répéta pensivement Serge.
« Mon amour large comme la mer !» reprit Werner. Et soudain il s'étonna.
« Moussia, ma petite Moussia, que tu es encore jeune !»
À ce moment, tout près de l'oreille de Werner, retentit la voix haletante et passionnée du Tzigane. Monsieur, monsieur, regardez la forêt. Mon Dieu, oh, qu'est-ce que tout cela? Et là, oh, les lanternes. Est-ce le gibet, mon Dieu?
Werner le regarda. Les traits convulsés du malheureux étaient effrayants à voir.
« Il faut nous dire adieu, » dit Tania. « Maintenant, on va encore lire le jugement. Où est Lerson ?»
Lerson restait immobile dans la neige. Des gens l'entouraient. Une violente odeur d'éther se répandait autour d'eux.
« Eh bien, docteur, est-ce bientôt fini ?» demandait quelqu'un avec impatience. « Non, c'est rien. Une syncope. Frottez-lui les oreilles avec de la neige. Oh, ça va déjà mieux. Vous pouvez lire. »
La lumière d'une lanterne sourde se répandit sur le papier et les mains blanches dégantées. Le papier et les mains tremblaient. La voix aussi.
Messieurs, peut-être vaut-il mieux ne pas lire. Vous connaissez tous les jugements.
Ne lisez pas, répondit tout le monde Werner. Et la lumière disparut aussitôt. Les condamnés refusèrent aussi l'office du prêtre. Sa silhouette noire et large fit quelques pas en arrière et disparut. L'aube pointait, la neige devint plus blanche, plus sombre le visage des condamnés, et la forêt plus dénudée, plus triste.
Messieurs, marchez deux par deux. Vous pouvez choisir votre compagnon, mais je vous prie d'accélérer le pas.
Werner désigna Lançon, qui était déjà debout, soutenu par deux soldats.
Bon, j'irai avec lui. Toi, Serge, prends Vassili. Passez devant nous.
C'est bien. Je vais avec toi, Moussia. Dit Tania, viens, embrassons-nous. Tous s'embrassaient rapidement. Le Tziga l'embrassait avec force. On sentait ses dents, lançant doucement et mollement, d'une bouche à demi ouverte. Il semblait qu'il ne comprenait plus ce qu'il faisait. Quand Serge et Cachérine eurent fait quelques pas, celui-ci s'arrêta subitement et d'une voix forte, mais qui semblait étrangère et inconnue, s'écria «
Adieu, camarade !»«
Adieu, camarade !» lui fut-il répondu. On se remit en marche. Tout était tranquille. Les lanternes derrière les arbres devinrent immobiles. On attendait un cri, une voix, un bruit quelconque, mais là, comme ici, tout était calme.
« Oh, mon Dieu !» râla quelqu'un.
On se retourna, c'était le Tzigane, qui, dans un effort désespéré, criait « On va nous pendre !» Il s'agitait, battant l'air de ses mains, et cria encore «
Mais Dieu, est-ce que je serais pendu tout seul, mon Dieu ?»
De ses mains convulsives, il agrippa la main de Werner et continua.
« Monsieur, mon cher, mon bon monsieur, tu viendras avec moi, veux-tu ?»
Werner, le visage crispé par la douleur, lui répondit. «
Ah non, non, je ne puis, je suis avec Lançon. » « Oh, mon Dieu, alors je serai seul, mais pourquoi? Pourquoi ?»
Moussia fit un pas vers lui et murmura « J'irai avec vous ». Le tzigane recula et la fixa de ses grands yeux dilatés. « Avec toi ?
Oui.
Mais tu es si petit, tu n'as pas peur de moi ? Alors je ne veux pas, j'irai seul. Mais je n'ai pas peur de vous. » Le tzigane découvrit ses dents. « Mais ne signale pas que je suis un brigand. Et tu veux rien bien de moi ? Réfléchis. Oh, je ne serai pas fâché si tu refuses. » Moussia se tut, et dans l'aube blanchissante, son visage sembla d'une pâleur lumineuse et mystique. Soudain, elle s'avança rapidement vers le tzigane, et prenant sa tête dans ses mains, elle l'embrassa fortement. Lui, il la prit par les épaules, l'écarta un peu, puis la baisa bruyamment sur les joues et les yeux. Le soldat qui se trouvait auprès d'eux s'arrêta, ouvrit les mains et laissa tomber son fusil. Mais il ne se baissa pas pour le ramasser. Il resta un instant immobile, fit un brusque écart et se mit à marcher dans la forêt. « Où vas-tu ? » lui cria d'une voix effrayée son camarade. « Reste !» Mais l'autre, avec peine, essayait d'avancer. Tout à coup, il battit l'air de ses mains et tomba, le visage en avant. « Ramasse ton fusil, poule mouillée, ou c'est moi qui le ramasserai !» cria sévèrement le tzigane. « Tu ne connais pas ton service, n'as-tu jamais vu un homme mourir ?» De nouveau, les lanternes vacillèrent. Le tour de Werner et de Lançon était arrivé. « Adieu, monsieur !» dit le tzigane à voix haute. « Nous nous reverrons dans l'autre monde. Quand tu m'apercevras, ne te détourne pas. Adieu. « Il faut pas me pendre !» dit encore Jansson d'une voix blanche. Mais Werner le prit par la main et le Jansson fit quelques pas. Ensuite, on le vit s'affaisser dans la neige. On se pencha vers lui, on le souleva, on le porta, tandis qu'il se défendait mollement dans les bras des soldats. Et de nouveau, les lanternes jaunes devinrent immobiles. « Et moi, Moussia, j'irai donc seul ?» dit tristement Tania. « Nous avons vécu ensemble, et maintenant, Tania, ma bonne Tania !» Le tzigane s'imperposa ardemment, tenant Moussia comme s'il craignait qu'on ne la lui arrachât. « Mademoiselle, s'écria-t-il, allez seule, vous avez une âme pure, vous irez où vous voudrez. Moi, je ne le puis, je suis un bandit, je ne puis partir seul. Où vas-tu, me dira-t-on, toi qui as tué et qui as volé ? Car j'ai volé aussi des chevaux, mademoiselle. Mais avec elle, je serai comme avec un enfant innocent. Comprenez-vous ?
Oui, je comprends. Ben allez donc, laisse-moi t'embrasser encore une fois, Moussia.
Embrassez-vous, embrassez-vous, dit le tzigane. Vous êtes des femmes, il faut bien se dire adieu. Le tour de Moussia et du tzigane arriva. La femme marchait avec prudence, d'un pas qui glissait, se retroussant par habitude. d'une main forte la retenant, tâtant le terrain de son pied, l'homme l'accompagnait à la mort. Les lumières s'immobilisèrent. Autour de Tania, tout redevint tranquille et solitaire. Les soldats, gris dans la lueur blafarde de l'aube, se taisaient. « Je reste seule, » dit Tania, et elle soupira. « Serge est mort, Werner et Vassili sont morts, et Moussia meurt. Je suis seul, soldat, mes petits soldats. Vous voyez, je suis seul, seul. » Le soleil se montra au-dessus de la mer. On plaça les cadavres dans des coffres et l'on se remit en route. Avec des coups allongés, des yeux exorbités, des langues bleues sortant des bouches, les suppliciés refaisaient le chemin par lequel, vivants, ils étaient venus. Et la neige était douce, et l'air de la forêt était pur et embaumé. Le caoutchouc perdu par Serge faisait une tache noire dans la blancheur du chemin. C'est ainsi que les hommes saluaient le soleil levant. Fin.